Radio Foot International en direct de Doha. Annie Gasnier.
Bonsoir, Massel Khir, bienvenue dans notre studio de Doha, toujours au plus près de la 22e Coupe du Monde. La deuxième grande surprise de cette compétition a eu lieu aujourd'hui à la mi-journée, c'est peut-être l'horaire d'ailleurs qui porte malheur, l'Allemagne battue d'entrée par le Japon, des samouraïs bleus qui sont allés au sacrifice exténué en fin de partie et les Allemands qui manquent toujours d'un buteur. Une Arabie Saoudite renversante, des Tunisiens et des Marocains qui ne plient pas, le football du monde arabe peut-il créer la surprise au Qatar ? Les Lions indomptables entrent en compétition, ce sera demain, des Camerounais affamés de réussite vont-ils créer la surprise face à la Suisse ? Et puis nous parlerons aussi des Brésiliens ambitieux comme à chaque mondial et ils semblent très concentrés sur leur objectif final, plus sérieux que de coutume avec Tite, semble-t-il. Nos invités dans cette émission aujourd'hui. Alors nous avons invité une personne que certains de nos auditeurs doivent connaître et s'ils le connaissent, c'est grâce à sa voix. Afid Deradji, bonsoir.
Bonsoir madame.
C'est un style ?
Ouais, j'oublie comme ça aussi, c'est mon style depuis longtemps.
Bon ben voilà, on a trouvé le bon. Et alors c'était quand ce but ?
C'était Angleterre-Iran,
voilà.
Ça fait 2-3 jours.
Ouais, pense. Exactement, vous les reconnaissez quand même malgré
tout.
Ah
ouais, comment ?
Alors vous êtes commentateur sur la chaîne beIN Sport.
Depuis 15 ans.
Elle ne s'appelait pas beIN Sport avant, elle s'appelait Al Jazeera, hein, c'est ça ?
C'est bien ça.
Et maintenant, c'est Al Jazeera, mais en arabe. Et c'est pour ça qu'on l'a passé de cette voie-là. Et pour nos auditeurs, un petit repère, vous êtes un ami de Nabil Jelit.
Tout à fait.
C'est un de nos... Justement, il y a un autre ami de Nabil Jelit qui est là ce soir. Alors, on n'a pas fait exprès, mais du coup, vous...
Ça veut dire qu'il est partout, ça veut dire qu'il a beaucoup d'amis, lui.
Il est partout, de toute façon.
C'est son fan club ce soir, là.
Bonsoir, Mathieu Grégoire.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Merci beaucoup. Alors, habituellement, on vous appelle quand tout va mal à Marseille. Mais là, je pense que les équipes que vous suivez là pendant la Coupe du Monde, ça ira mieux.
Ça va mieux. C'est vrai qu'on s'est eu après la défaite contre Tottenham à domicile.
Exactement.
Celle-là, on a eu du mal à s'en remettre. Là, pour l'instant, mon mondial commence par 2-0-0, Annie. Donc, j'ai toujours pas vu un but au stade avec le Maroc et la Tunisie, mais demain, normalement, Brésil-Serbie.
Il y a de l'espoir. Vous travaillez pour le journal L'Équipe. À vos côtés, eh bien, des journalistes de la rédaction de RFI. Hugo Moissonnier, bonsoir.
Bonsoir, Annie. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, Hugo, il suit aussi le Maroc, mais il suivra évidemment d'autres équipes dans cette compétition pour RFI. Et puis, Elcio Ramalho. Alors, Elcio, lui, il suit notamment et exclusivement pratiquement les Brésiliens. Mais hein, quel morceau. Bonsoir Elcio.
Bonsoir.
Hein, Elcio, les Brésiliens, on en parle et on va en parler parce qu'ils joueront donc demain. Pour préparer cette émission, David Finzel m'a aidé ainsi que Laurent Salerno. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir une petite vidéo qu'on a mise sur la page Facebook de la préparation de Radio Foot. Vous verrez, parfois c'est sportif. Il y a aussi Léo, Bernard, Cyril, Étienne et Benjamin Availlou pour ce qui est du Facebook Live. Vous pouvez nous retrouver à travers l'image à cette heure tardive. Radio Foot, c'est parti. On va citer votre journal, Mathieu Grégoire. Tout à l'heure, ils ont eu un titre très original et très amusant, surtout. Hippon, Alors, quand on connaît le judo, ça veut dire qu'on a battu son adversaire par ippon. Et c'est l'Allemagne qui a été battue par ippon, déjà acculée, avec une défaite d'entrée inattendue contre des samouraïs bleus qui ont donc retourné la situation en fin de partie, puisque l'Allemagne menait sur le score de 1-0. Elle a d'ailleurs raté beaucoup de buts. Et puis, deux Japonais, Dohan et Asano, ont marqué et ont inscrit donc le but de la victoire. Mais qu'est-il arrivé donc à cette équipe allemande, pourtant reprise en main par Hansi Flick? Qui veut répondre? Afid, est-ce que vous vous attendiez, vous imaginiez que cette Allemagne serait battue d'entrée?
Personne. Ni l'Allemagne, ni l'Argentine. Je pense que les Allemands ont sous-estimé un petit peu les Japonais. Ils ont bien joué pendant 70 minutes, je pense qu'ils étaient bien en place. Ils n'avaient pas d'avancante. Ils menaient 1-0. L'entraîneur, je pense, a fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. De changement qu'il a fait. Il a fait sortir trois bons joueurs, il les a mal remplacés et les Japonais sont revenus. Ils ont marqué deux buts, ils étaient super durant les 15 dernières minutes du match. Donc c'est des détails importants pour un match de football. Les Japonais ont su comment les gérer.
C'est un accident ou c'est inquiétant, Mathieu Grégoire?
C'est un peu inquiétant parce que je ne suis pas tant surpris par le déroulé du match que le fait que ça arrive avec Hansi Flick, comme vous le disiez, parce qu'on voyait qu'avec Joachim Löw, on était en fin de cycle. Et là, avec Hansi Flick, on repartait sur quelque chose, on attendait une Allemagne plus cohérente. Et en fait, on s'aperçoit que l'Allemagne nous a fait à peu près aujourd'hui le même match que lors du premier tour de la Coupe du Monde 2018, contre le Mexique, contre la Corée du Sud, à chaque fois des tonnes d'occasions. Mais un taux de conversion extrêmement faible. Il a fallu un pénalty aujourd'hui de Gundogan pour marquer, alors qu'il y a eu 25 tirs qui sont partis soit sur le gardien, soit dans les nuages, soit à côté. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème en Allemagne sur l'efficacité offensive. Et donc comme ils ne marquent pas, et qu'ils sont un peu laxistes défensivement, dès que le Japon a poussé en fin de match, ils n'avaient pas fait le break, et le Japon a réussi à retourner la situation. Mais ça leur arrive à l'Euro 2021 contre la France, on s'en rappelle. Ça leur est arrivé aussi, ils ont eu beaucoup de mal contre la Hongrie, rappelez-vous. Et donc Corée du Sud et Mexique en 2018, ouais, cette Allemagne a du mal aujourd'hui à être efficace.
Les équipes asiatiques, peut-être, ne leur réussissent pas. Les Japonais, en plus, ont eu peu de temps de possession. Je crois qu'à la fin, on avait 27 temps de possession pour ce qui était de l'équipe japonaise. Mais Hugo, peut-être qu'aussi, Hansi Flick, on dit c'est le nouveau sélectionneur, mais c'était longtemps un collaborateur de Joachim Löw.
Oui, effectivement, puisqu'il était dans le staff en 2014. Et puis après, on l'a vraiment connu en tant qu'entraîneur numéro 1 au Bayern Munich. Mais c'est vrai que je rejoins Mathieu. Au Bayern Munich, il avait un peu réconcilié le Bayern avec ce qui fait sa force et un peu sa particularité, ce côté un peu, désolé, Panzer, un peu, rouleau compresseur, on va le dire plutôt comme ça, avec un jeu plutôt direct qui tranchait avec ce qui était devenu une sorte de caricature du côté de Joachim Löw, une sorte de un peu de sous Guardiola où on joue sans avant-centre, on privilégie la beauté de la construction, mais alors l'efficacité on la met un petit peu de côté. Et c'est vrai que le Bayern Munich de Hansi Flick, il faut se souvenir, c'était des temps de passage hallucinants sur la période Covid notamment, et le Final Eight à Lisbonne, et c'était des victoires et des raclées mises à tout le monde, notamment au Barça. Et du coup, c'est assez étrange effectivement de voir qu'on retrouve, une fois qu'il lui revient dans le giron de la sélection allemande, il semble être un peu pris par les mêmes mots. Et donc c'est peut-être effectivement, comme le dit Mathieu, une tendance de fond assez lourde pour le football allemand.
Il n'a pas Lewandowski. Il n'a pas Lewandowski. Voilà. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de neuf en Allemagne.
L'Allemagne
depuis
ne crée plus ce numéro 9.
Mario Gomez, on n'a plus de numéro 9 qui sont là pour concrétiser.
Mm-hmm. Ouais. Effectivement.
Pas de buteur, peut-être aussi Afid, des joueurs qui... Alors, je ne veux pas être méchante en disant qu'ils ont peut-être fait leur temps, mais c'est vrai qu'on voit encore Müller, il était déjà là en 2010. On voit aussi Rudiger, qui n'est pas non plus super jeune. On voit toujours Neuer. Est-ce qu'il y a un problème aussi dans des équipes comme ça de changer finalement, d'oser mettre plus de jeunesse?
En plus, ils ont beaucoup de qualité dans le championnat allemand et dans les différents championnats. Ils ont une génération... Une jeunesse exceptionnelle.
On les avait vus à la Coupe de la Confédération.
Tout à fait. Hein, ils étaient exceptionnels. Et puis, avec le changement d'entraîneur, ils devaient, avec un nouvel entraîneur, ils devaient faire beaucoup de changements, surtout qu'il y a de la qualité. Si on parle sur le plan technique sur ce match, moi j'ai un chiffre, c'est pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'une équipe fait 422 passes en première mi-temps. C'est énorme. c'est significatif pour une équipe d'Allemagne. Je redis encore une fois, vous avez posé la question, est-ce que c'est inquiétant? Je ne pense pas que c'est inquiétant. Même pour l'Argentine, ce n'est pas inquiétant, le fait de perdre le premier match. C'est choquant, mais ce n'est pas vraiment inquiétant parce qu'ils ont de la qualité pour pouvoir revenir. Faire 422 passes en première mi-temps, dominer pendant 70 minutes, autant d'occasions ratées parce que peut-être ils ne jouent pas avec un avant-centre, c'est pas inquiétant pour l'Allemagne. J'imagine qu'ils peuvent revenir.
Est-ce qu'on a le droit de parler de l'Allemagne devant un Brésilien?
Mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir battus comme ça. Je peux vous assurer, en fait. C'était très bien de voir les Japonais débattre. Bon, en tout cas...
Vous voulez les éliminer?
Oui, ça se passait en 2018, justement. Ils ont été éliminés au premier tour, en phase des poules, justement. Je les voyais dans la salle de presse là en Russie. Donc, tous les Brésiliens, les journalistes, vraiment... qui ont célébré tout ça, c'était pas très sympa, mais bon, en tout cas, voilà, c'est manque de réalisme des Allemands.
Alors, cette Espagne, alors peut-être un petit coup de chapeau, c'est assez japonais quand même, parce que c'est un football qui est différent quand même, qu'on voit, alors c'est pareil, nous en Europe, très eurocentré avec la Ligue des Champions, tout ça, on découvre parfois, et c'est le bénéfice de la Coupe du Monde, certaines équipes et certains styles, et le Japon a longtemps été lié, notamment au football brésilien, avec Zico et tout ça, mais là c'était une équipe...
Très tonique, avec des attaques assez rapides et qui viennent aussi d'Allemagne. Parce qu'on voit des excellents joueurs japonais, notamment Annie, on l'a vu en Ligue des Champions avec Francfort contre l'OM. Kamada, c'est un excellent joueur. On a aussi un défenseur qui est un des défenseurs centrales qui joue à Mönchengladbach. On a les deux.
On a eu longtemps Sakai,
qui venait d'Allemagne.
Voilà, qui venait d'Allemagne, d'Hanovre, qui a fait Japon. Voilà, on sait que l'Allemagne, la Bundesliga, n'hésite pas à aller chercher au Japon et après il rayonne dans toute l'Europe. On a aussi Ito qu'on connaît à Reims. Et effectivement, ce jeu très finalement, ils sont capables de mettre de la puissance là où avant on les voyait un petit peu comme des ballerines en chorégraphie. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est capable, sur un quart d'heure, 20 minutes, de mettre des grosses vagues, de presser très haut. Et l'Allemagne a beaucoup souffert en fin de match.
Mmh. Alors,
oui, juste pour aussi rappeler que c'est quand même une équipe très régulière en Coupe du Monde. C'est plus vraiment une surprise, le Japon. Alors déjà, parce que le pédigré des joueurs qui la composent est quand même devenu très européanisé. Mmh. Et on parlait de l'Allemagne, il y avait aussi Kagawa, hein, qui avait fait des merveilles avec Dortmund. Bon, ça remonte un petit peu. Mais donc déjà, il y a quand même des vraies références pour les joueurs. Et puis surtout, ils sont en Coupe du Monde de manière ininterrompue depuis 98, me semble-t-il. Donc ils étaient quand même 8e de finaliste au bord des quarts de finale il y a 4 ans et demi. En Russie, ils menaient 2-0 et ils se sont écroulés à quelques minutes de la fin et contre la Belgique. Et finalement, la progression, elle est plutôt constante du côté du Japon. Donc on n'est plus face à une petite équipe, tout simplement.
Depuis qu'ils ont organisé la Coupe du Monde 2002 avec la Corée.
Oui, ils étaient déjà là en 98. C'était leur première participation. Mais c'est vrai qu'ils avaient, en 2002, organisé la Coupe du Monde. Ils avaient passé déjà le premier tour. Ils ont passé le premier tour également, je crois, en 2010. Enfin, donc on parle d'une équipe qui a des références, qui commence à avoir des références.
Et aussi qui sont parmi les même trois meilleures nations en Asie.
Exactement.
Depuis des années. Donc,
et puis il y a peut-être aussi le fait de jouer dans sa confédération, même si ce n'est pas la même région asiatique, le Moyen-Orient. Il y a peut-être aussi ce facteur-là. Ici, il joue pour les sélections arabe, il peut aussi jouer pour les sélections de l'AFC et de l'Asie. Ça peut peut-être donner un petit plus.
Alors, dans ce groupe, il y a des choses qui vont se passer dès le deuxième match. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un adversaire face à l'Allemagne qui n'est autre que l'Espagne.
Et on commence le septième. Viene Nico. Nico Morata. Morata qui quiere fiesta. Morata, 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 Morata. Gol, gol, gol.
Alors tout à l'heure on parlait de style pour annoncer les buts, là c'est nos confrères espagnols, mais pourquoi ? Eh bien parce que c'est le 7e but de l'Espagne, l'entraîneur Luis Enrique à la fin dit mais je vous l'avais bien dit, je vous l'avais annoncé et tout, en tout cas peut-être qu'on ne s'attendait pas à un tel carton. On a une pensée émue nous ici pour Keylor Navas que vous voyez souvent au Parc des Princes ou que vous avez souvent vu au Parc des Princes, Elcio, pauvre gardien qui est pourtant d'habitude au niveau en Ligue des Champions, Keylor Navas.
Oui, en fait, en voyant le résumé du match, l'Espagne quand même a raté pas mal de buts. Hein. Ça pourrait être pire encore. Hein. Sincèrement, j'ai vu qu'ils ont vraiment raté encore au moins 3 occasions, vraiment.
Ouais. Est-ce que ça va être le match phare de dimanche soir, Allemagne-Espagne ?
C'était déjà attendu depuis avant le résultat d'aujourd'hui. Tout le monde attendait ce match parce que c'est le match phare du premier tour, carrément. Donc avec la défaite de l'Allemagne, ça va être les Espagnols vont aussi essayer de faire éliminer l'Allemagne complètement, faire bénéficier le Brésil en éliminant l'Allemagne. Donc ça va être très dur pour les Allemands, mais je pense qu'ils vont revenir les Allemands. Le match jouer l'Allemagne, c'est pas le Costa Rica pour les Espagnols. Bon, ça va être un gros test pour les Espagnols. Contre l'Allemagne, on saura ce que vaut vraiment l'Espagne.
Et ce que valent ces deux équipes. Et puis, on a eu la Belgique qui a joué ce soir. Elle jouait contre la Corée du Sud. Le Canada. Et elle s'en est sortie, on va dire petitement, mais c'est bien suffisant, avec un but de Batshuayi. Et la voilà donc vainqueur. On était allé faire un reportage et on était allé auprès des Diables Rouges il y a 2 mois. Et ils étaient pas très très optimistes, nos amis belges. Donc, en tout cas, ils commencent par une victoire. Ce matin, une équipe africaine entrée en jeu et c'est le Maroc, les Lions de l'Atlas, très attendus parce qu'ils ont résisté finalement aux assauts croates aujourd'hui. Hugo, Modric et tous ses copains n'ont pas réussi à passer. Un certain Bounou, le gardien de Séville qu'on connaît, eux aussi, ils ont réussi finalement à ramener un point, les Marocains. On avait salué la performance de la Tunisie qui avait gagné le premier point des équipes africaines et là, c'est le cas aussi du Maroc.
Oui, alors les assauts, finalement, ils n'ont pas été si nombreux que ça, les assauts croates. On n'a pas assisté au plus grand match de l'histoire de la Coupe du Monde.
Non, mais c'est les vice-champions du monde, voilà. Si on parle
exactement,
de 2018.
Exactement. Pour le Maroc, il y avait plusieurs enjeux. Rompre un petit peu avec le cauchemar, quelque part, de 2018. Ils étaient revenus en Coupe du Monde après 20 ans d'errance. Et ils avaient débuté dans un groupe de la mort par l'adversaire le plus facile sur le papier, l'Iran. Ils avaient dominé, bien joué, et puis pris un but contre son camp, casquette, en toute fin de match. Il fallait un petit peu rompre avec ce genre de scénario de l'équipe naïve qui se perd dans son premier match. Donc le point du nul, il est vraiment très important.
Et on va écouter Sofiane Boufal, le milieu terrain des Marocains, parce qu'on va l'entendre. Sofiane Boufal, il explique qu'ils ont joué sans complexe.
Pour la plupart d'entre nous, c'était le premier match de Coupe du Monde. Donc voilà, il y avait un peu d'appréhension, un peu d'anxiété, je pense. On ne va pas faire la fine bouche. On sait très bien que voilà, on a joué contre le vice-champion du monde. On s'attendait à un match très difficile avec l'horaire du match et la chaleur. Mais voilà, on ne va pas faire la fine bouche. On va prendre ce point et j'espère qu'il sera de bon augure pour la suite.
Mathieu Grégoire, vous avez eu la sensation qu'effectivement c'était sans complexe face à une équipe qui avait été vice-championne du monde ?
Pas sans complexe, non. Au contraire, une volonté, j'ai l'impression, de se rassurer, de vaincre un peu le spectre de l'Iran en 2018 avec cette défaite à la dernière minute, de cette volonté de bien rentrer dans sa compétition, mais en même temps, en ne se livrant pas complètement. Et c'est vrai que comme en face, on avait un adversaire qui faisait un peu pareil, qui ne se livrait pas à fond, qui jouait sur son tempo, qui attaquait parfois sur des contre-attaques. Les Croates, ils y allaient à 2 contre 6 Marocains. Donc c'est vrai qu'on ne voyait pas trop. Mais c'est une équipe patiente. Ils ont quand même eu les plus grosses occasions. C'est vrai que ce Maroc, finalement, on s'est dit, ils étaient très pragmatiques, presque cyniques et réalistes. Walid Regragui a dit, on a joué comme une équipe européenne, pas comme une équipe marocaine un peu fofolle, qui attaque jusqu'à la fin et qui se fait prendre dans la dernière minute. Donc il y aura quand même quelques regrets. Je ne sais pas ce qu'en pense Hugo, mais il y aura quand même quelques petits regrets de peut-être pas avoir joué quelques coups un peu plus à fond et de ne pas avoir eu cette petite folie. Mais ça, la suite du parcours le dira.
Mais la folie, elle aurait peut-être pu venir de Hakim Ziyech, qui était le personnage qui a conduit officiellement au départ de l'autre sélectionneur jusqu'à il y a 2 mois, qui était coach Vahid, comme on l'appelle en France, mais Vahid Halilhodžić. Comment a-t-il été Hakim Ziyech ? Est-ce qu'il a amené ce grain de folie à Fid ?
Je ne pense pas, non. Pour le premier match, non, pas grand-chose. Hakim Ziyech a toujours été comme ça durant les dernières années, que ce soit avec Vahid ou avant Vahid, même maintenant. Je pense qu'il est revenu dans des conditions un petit peu difficiles, parce que les yeux sont tous barriqués sur lui. Il y a beaucoup de Marocains qui disent, voilà, tu n'as pas voulu travailler avec Ali Lozic, on va voir qu'est-ce que vous allez faire. Bon, et puis le Maroc ne dépend pas, je ne pense pas qu'il dépend uniquement d'un seul joueur. Auparavant, avant le début du mondial, beaucoup de Marocains, beaucoup d'Africains aussi, pensaient que le Maroc était meilleur que la Tunisie, par exemple, que l'Arabie Saoudite, même que le Qatar, ils pouvaient passer le premier tour. Ce que j'ai vu aujourd'hui sur le match contre la Croatie, en plus de ce que a dit notre ami, je pense que c'est pas parce qu'ils n'ont pas osé. Aussi, les Croates, c'est les Croates qui n'ont pas osé plus. Ils ont joué, je sais pas, pour le match nul. Non, je pense pas que les Croates jouaient pour le match nul, mais ils se sont contentés de.
C'était un faux rythme un peu, ouais.
Presque.
Mais justement, c'était très piégeux parce que il y avait cette volonté, je pense.
Qui a piégé l'autre?
Eh ben alors, c'était piégeux en tout cas pour les Marocains, parce que le piège croate, c'est un petit peu de vous endormir avec un milieu de terrain qui a une maîtrise tactique et technique. Bon, Kovacic, Brozovic et bien sûr Modric. Et là, à un moment donné, ils instaurent le rythme dont ils ont envie, qui est un peu un faux rythme. Et le danger, c'est de s'endormir et de prendre le but. Et puis derrière, c'est fini quoi. Mais là, c'est vrai que les Marocains étaient d'une solidité. Je trouve que vraiment l'arrière-garde, parce qu'on parle des parades de Bounou, mais alors je trouve que même Hakimi défensivement a été très bon. Je trouve que la charnière centrale, la garde Saïs, elle était vraiment excellente, vraiment de la sérénité, de l'autorité. Enfin, c'était vraiment beau à voir. Mais le problème, le revers, c'est qu'effectivement, tout le monde a été un petit peu à l'avenant de ça. Et même Hakim Ziyech, j'ai l'impression que les gages, plutôt que de les donner sur sa vision du jeu, sa patte gauche magique, il les a donnés sur le travail défensif, sur la discipline, pareil un peu pour Boufal. Et donc, du coup, les regrets, c'est qu'on n'a pas vraiment utilisé les qualités offensives qui sont quand même sur le papier réel de cette équipe du Maroc. Il y a eu quelque chose de un peu trop timoré en attaque. Mais en défense, je trouve que... Et la défense, ça peut faire une vraie différence. C'était assez impressionnant de concentration et d'intensité. De toute façon, il y a eu une tension dans ce match qui était horrible à voir. Je pense si on a été un spectateur neutre, je suis désolé de le dire comme ça. Mais quand on est dedans, et on a senti le public, parce que le public marocain était extraordinaire, on a senti une tension, une libération à la fin quand ils ont obtenu ce point du match nul. Donc, un vrai beau combat de boxe.
Justement, on va écouter l'un des autres acteurs de ce match côté marocain. C'est Romain Saïs qui explique les intentions qu'avait l'équipe en rentrant sur le terrain.
On a envie de montrer qu'on sait être au niveau. Je prenais le Maroc, voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité qui jouent dans les meilleurs clubs, dans les meilleurs championnats. Donc, on a envie de montrer une bonne image du football marocain. D'autant plus qu'on sait qu'en Afrique, c'est très compliqué de décrocher une qualification parce qu'on n'a que 5 tickets. Donc, une fois qu'on est là, voilà, on n'a pas envie de venir en touriste. On a envie de montrer qu'on peut rivaliser avec les meilleures équipes.
Au micro de Farid Achas, Romain Saïs, Mathieu Grégoire, est-ce que ces équipes, alors on entend qu'elles veulent faire bonne figure, qu'elles ne sont pas là en touriste, on se posait la question, point commun peut-être entre la Tunisie, le Maroc et l'Arabie Saoudite, est-ce que de jouer ici, elles se sentent un peu comme à la maison?
Ah, clairement, c'est vrai que c'est la Coupe du Monde, ça Affine en parlera aussi je pense bien avec l'engouement qu'il y a ici, c'est la Coupe du monde arabe, c'est très impressionnant, c'était beau aujourd'hui parce que le stade était tout aux couleurs du Maroc et il y avait une belle ambiance, mais hier c'était au stade Education City, c'était formidable, le stade il y avait 42 000 personnes dont 90% minimum de Tunisiens. Une ambiance d'enfer, parce que les Tunisiens, en plus, ils ont ce côté, on est tous derrière la sélection, alors qu'on sait qu'au Maroc, il y a quand même une petite bisbille, le clubisme est assez important, c'est avec Wydad, Raja. Voilà, là, c'est impressionnant, la Tunisie. Moi, j'ai rarement vu un engouement comme ça sur une sélection, du rouge partout, des champs partout, le métro bondé. Et c'est vrai que ça les porte et ça les galvanise. Et Aïssa Laïdouni nous disait juste après le match, nous disait ouais, mon intervention rageuse d'entrée là sur Eriksen, bah, j'avais envie de la partager au public. C'était une façon de se libérer, de tout se libérer en fait, aussi bien en tribune que sur le terrain. Donc il y a quelque chose qui se passe et tout est fait pour qu'il y ait un maximum de supporters arabes en tribune, parce que même aujourd'hui il y avait plein de supporters marocains qui n'avaient pas de billets, mais qui s'étaient organisés pour venir au stade et pour attendre qu'une fois que toutes les gens avec billets étaient passés, ils savaient qu'il y aurait des places qu'il resterait dans ce stade qui est immense, hein, qui fait presque 80 000 personnes, et qu'il pourrait rentrer après, une fois le coup d'envoi passé. Ouais, ils sont rentrés, ouais. C'est très structuré. Ça permet aussi de ne pas avoir des tribunes trop... pas vides, mais on va dire un petit peu dégarnies, quoi. De monter un petit peu encore en gamme dans l'affluence. Et donc, du coup, il y avait un nombre de Marocains phénoménal.
Afid, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que de jouer ici, c'est aussi un cadeau peut-être d'une certaine façon pour le monde arabe, entre guillemets, mais c'est-à-dire toutes les nations ici de la région et qui ont ça en commun?
Tout à fait, surtout pour les Saoudiens, nous n'en avons pas parlé, mais ils étaient 120 000 le jour du match, 120 000 à Doha. Bon, il y avait 70 000 ou 80 000 au stade. Il y avait pour la première fois de l'histoire de Qatar 88 000 spectateurs dans un stade. Dans les tribunes d'un stade, c'était historique. C'est grâce aux Saoudiens qui rentrent le matin et qui reviennent le soir en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite a encouragé les Tunisiens et les Marocains. Les Marocains étaient encouragés aussi par la Tunisie et l'Arabie Saoudite, ça les a motivés un petit peu. Ils ont ce sentiment qu'ils sont chez eux, les Saoudiens, même les Marocains et les Tunisiens, surtout depuis l'expérience de la Coupe arabe, ça fait moins d'une année. C'était extraordinaire aussi. Donc il y avait beaucoup de Tunisiens, beaucoup de Marocains, beaucoup d'Algériens, beaucoup d'Égyptiens. Et c'était une très belle Coupe arabe. Donc il va y avoir beaucoup de monde. Je pense que pour le prochain match de l'Arabie Saoudite, par exemple, il va y avoir 200 000 spectateurs facilement qui vont venir.
Un appel a été lancé par Hervé Renard, d'ailleurs, en fin de match.
Mais les sélectionneurs sont vachement demandeurs de ça. Hein. Aussi bien Kadri avec la Tunisie que Regragui disent c'est notre Coupe du Monde, venez, frères algériens, frères égyptiens, soutenez-nous. Ils le disent en conférence de presse.
Même ceux qui ne sont pas qualifiés, comme les Algériens, participent à la fête. Dans le Souguaghi, vous avez du drapeau algérien et des chants en l'honneur de l'Algérie. Il me semble que le Qatar était encouragé par un groupe de supporters, mais qui n'est pas composé exclusivement de Qatariens. C'était différentes nationalités arabes, une sorte de groupe arabe de supporters derrière le Qatar. Donc,
il y a ces sujets, j'ai rencontré en fait trois Marocaines.
Trois Marocaines
justement qui étaient venues justement du Maroc pour voir les matchs, et elles étaient vraiment très fières en fait de participer, de voir les matchs. Pourquoi j'ai mal parlé, c'est ça?
Non. J'ai pensé que c'était des Marocains. Vous m'avez présidé Marocaines.
Il y a des femmes supporters dans le football. Justement, Afid, quelle a été la répercussion de la victoire de l'Arabie Saoudite ici au Qatar, alors qu'on sait que ces derniers temps, et Hugo s'était intéressé à ce thème, il y avait eu un malaise entre les deux nations ces dernières années, on va dire, je crois que ça datait de 2015, 2017, ce blocus qui avait eu lieu. Alors, on sentait des bisbilles. Là, on a vu dans la tribune le premier jour, le jour de l'ouverture. Alors, ils étaient séparés par le président de la FIFA, mais ils étaient tous les deux en tribune. Et là, que l'Arabie Saoudite remporte cette victoire symbolique contre l'Argentine, c'est très fort. Et on a vu hier les réactions. Est-ce qu'il peut y avoir une incidence diplomatique, selon vous, ou régionale?
Je pense que le problème est résolu depuis une année et demie, je pense. Les relations sont revenues. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des relations sociales très fortes entre les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis. Ils ont même des relations familiales entre eux. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport aux problèmes politiques qui existaient, je pense que les peuples sont assez mûrs et il y a toujours cette relation effectuée entre les peuples. Et ça s'est concrétisé, surtout avec la victoire de l'Arabie Saoudite. J'ai remarqué que les Qataris étaient aussi ravis et fiers de la victoire des Saoudiens. Et puis, c'était un moyen aussi de faire oublier ce qui s'est passé en 2017.
En tout cas, le football dans la région, il continue à se pratiquer. Et demain, on va s'intéresser au match du jour. Et le match du jour commence par des Lions.
Les Lions indomptables à la Coupe du Monde 2022.
Allez-y. Les Lions sont de retour, clame un message qui clignote au fronton de l'hôtel des Cameroun et l'une des équipes africaines les plus régulières dans cette compétition mondiale avec 8 participations et des prétentions portées haut par le président de la fédération, la star du football, qu'est Samuel Eto'o ou que fut Samuel Eto'o. Il annonce depuis la qualification du Cameroun que ce Cameroun qui a éliminé l'Algérie ira au bout et jouera 7 matchs. Faut-il le croire ? Alors on a demandé à notre consultant, notre ami ici à Radio Foot, Rémi Ngono, et il nous a envoyé son pronostic. Écoutez et regardez.
Le Japon qui bat l'Allemagne. L'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine. Et pourtant, le Cameroun avait bel et bien battu cette Arabie Saoudite à la Coupe du Monde en 2002. Alors, si déjà ces pays qui n'étaient pas si bien cotés parviennent à réaliser de tels exploits, combien de fois les Lions Indomptables du Cameroun? Eh bien, les Lions Indomptables du Cameroun, avec 8 participations à la Coupe du Monde, et surtout ayant déjà battu l'Argentine de Diego Maradona, comment pourrait-il avoir peur de la Suisse? Mais non! Les Lions Indomptables sont bel et bien capables de le faire, parce que aujourd'hui, que ce soit sur le plan offensif, avec des éléments dignes de ce nom, et aussi avec une certaine expérience par derrière, un gardien impeccable, les Lions Indomptables devraient normalement battre la Suisse. Allez les Lions, Radio Foot, eh bien nous allons fêter ça.
Alors, Afid, je vous explique, hein, Rémi Ngono, c'est notre Camerounais régulier tous les vendredis et les auditeurs l'adorent et ils connaissent ses emportements et ses affirmations parfois osées. Est-ce qu'il faut croire Rémi Ngono ou est-ce qu'il faut croire Samuel Eto'o aussi et croire que demain les Lions vont manger des petits Suisses?
Non, ni l'un ni l'autre. Le football, c'est autre chose. Même Jamel Belmadi avait déclaré dans 2 ans auparavant qu'il allait gagner la Coupe du Monde. Il s'est même pas qualifié. Donc, non, il ne faut pas croire. Le Cameroun, ils ont une bonne équipe, ils ont une tradition, que ce soit sur le plan africain ou bien même sur le plan mondial. C'est l'une des équipes qui a participé en Coupe du Monde, je pense, 6 fois. C'est la 6e fois, je pense.
Non, c'est la 8e fois.
8e fois.
C'est un record au niveau du continent.
C'est
la dernière victoire, parce que apparemment c'était l'argument imparable de Rémi Ngono, c'était contre l'Arabie Saoudite il y a 20 ans, donc ce qui n'est pas la référence, la meilleure référence qu'on puisse avoir en Coupe du Monde. Voilà.
Ça va être compliqué pour eux.
Surtout peut-être, Mathieu, ce qui surprend quand même, c'est qu'on dirait que Samuel Eto'o, en voyant cette équipe qualifiée, lui qui venait d'arriver à la tête de la fédération, Rigobert Song qui venait d'arriver avec cette sélection, il décrète tout d'un coup que du coup les Lions iront très loin.
Oui, non, mais oui, il s'enflamme un petit peu là, notre ami Samuel Eto'o, parce que c'est vrai que son équipe, moi je trouve que derrière, elle donne pas quand même des gages de solidité incroyables. Et devant, il y a du matos, mais c'est vrai que...
Nkoulou, vous connaissez bien.
Alors, Nkoulou, je connais bien. je connais bien d'il y a 10 ans, Annie. Donc, c'est un peu le problème, en fait. C'est vrai que là, il est en fin de carrière à l'Aris Salonique. Castelletto, à Nantes, c'est quand même pas terrible. Il y a le petit Woum, mais il le fera pas jouer, qui est un bon joueur, lui. Et donc, je vous dis ça, c'est les joies du direct. Nabil vient de m'envoyer la compropoable du Cameroun. Donc, je vous la donne.
Donc, participer, c'est sûr.
Donc, normalement, on aurait Choupo-Moting à la place d'Aboubakar en pointe. Je pense que c'est la principale information.
Choupo-Moting qui flanque avec le Bayern.
Ouais, donc, plutôt à la place d'Aboubakar, qui était quand même le taulier récemment de la sélection. Et après, on aurait Mbemo et Toko Ekambi sur les côtés. Ça, c'est pas mal. Mbemo, c'est devenu un bon petit joueur de première ligue. Il est en train de percer. Toko, c'est bon. Pas très bon avec Lyon cette année, mais ça reste quand même pour moi une valeur sûre. J'aime beaucoup ce joueur. Et un milieu avec notamment Franck Zambo-Anguissa, qu'on aime beaucoup aussi à Marseille, qui est en train d'exploser à Naples. C'est un surtout, super joueur. Mm-hmm. Voilà, après avec Ongla et Encham. Bon, Encham, je suis moins fan, mais voilà.
Hugo,
je crois qu'à Marseille,
on a eu beaucoup de Camerounais. Hein. C'est vrai que...
Encham, oui, c'est... Ouais, non, Encham, à lui tout seul, il avait provoqué une espèce de crise de gouvernance.
Il avait provoqué le départ de Villas-Boas, tout à fait.
Ouais, c'est exceptionnel, le pauvre.
Il a dit, je ne veux pas entraîner ce joueur-là.
Donc je démissionne.
Hugo, est-ce que cette façon de mettre la pression sur la sélection peut être à double tranchant?
Alors bon, c'est un peu compliqué à dire. Il faudrait être dans le vestiaire camerounais pour savoir si ça les galvanise ou non. Peut-être que c'est aussi une manière de dire qu'il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité. Et finalement, quand on voit...
le dire autrement.
Oui, manière. Alors est-ce que Samuel Eto'o peut vraiment le dire autrement? Il est aussi comme ça, Samuel Eto'o. Donc il c'est quelqu'un qui s'est fixé à atteindre des objectifs très élevés dans sa carrière. Peut-être que c'est cette culture-là qu'il veut inculquer. Bon, ça paraît effectivement, l'effectif paraît pas tout à fait taillé pour aller au bout. Néanmoins, finalement, quand Mathieu déroule le 11 de départ, je trouve pas qu'il y ait d'énormes trous dans cette équipe, qui a peut-être la chance, justement, c'est un peu tout le paradoxe, de ne pas avoir de Samuel Eto'o, c'est-à-dire de ne pas avoir une star qui prend trop de place, et finalement d'avoir quelque chose de peut-être plus cohérent. On rappelle que son dernier grand résultat, c'est la victoire à la CAN avec notre ami Benjamin Mukonjo, ouais, en tant que capitaine, et c'est pas lui faire offense que de lui dire qu'à l'époque, lui n'était pas Samuel Eto'o non plus, et que cette équipe-là, elle s'était imposée par un groupe, pas forcément
un
par un assemblage de stars. Et pour une fois, c'était cohérent et ça a été très difficile à stopper.
Samuel Eto'o était à l'entraînement avec les joueurs aujourd'hui. Vous l'avez vu, Fid, sur les images?
J'ai pas vu.
Il était en short et en crampons. Et donc,
je retire ce que j'ai dit.
C'est un problème quand même. Enfin, moi, je trouve d'avoir un président aussi omnipotent qui fait un peu les compos. Ou en tout cas le groupe. L'autre fois, on voit Rigo Berson qui dit à l'antenne des joueurs dont certains ont l'impression qu'ils ne les connaissent pas. Alors, je caricature un petit peu, mais c'est vrai qu'il est omniprésent, quoi. Il prend une place, même à l'entraînement, Annie.
Ben oui, justement, il avait mis... En tout cas, il y a une équipe qui est là, présente depuis 1930, sans jamais manquer une seule édition de la Coupe du Monde. Alors, c'est vrai qu'en 1930, moi, c'était des voisins. Et ce sont bien sûr les Brésiliens. Et nous allons en parler tous ici, et grâce notamment à Elcio Ramalho. Est-ce que vous aussi, vous êtes musicien? Parce qu'on a l'impression qu'au Brésil, tout le monde l'est. En tout cas,
je ne suis pas.
Et tous les joueurs, là c'est, on a vu une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où tous les Brésiliens jouent d'un instrument, ne serait-ce que du tambourin.
Oui, parce qu'en fait, je pense qu'ils sont en train d'entraîner, de faire une répétition d'une nouvelle musique là pour la sélection, en fait. Parce que là, c'est une vieille, là. Hein, c'est de l'année... Voilà, ça date d'il y a... 4 ans ou 8 ans, hein, cette chanson-là. Donc, du coup,
mais c'est eux qui la jouent. On a vu Marquinhos, on a vu Richarlison, on a vu, ils sont tous là avec leurs instruments, ils s'amusent dans les vestiaires. Bon, en tout cas, ça a l'air toujours gai. Les Brésiliens annoncés comme favoris, quelle surprise!
Mais c'est toujours comme ça. C'est un peu le poids de l'histoire, en fait, en quelque sorte.
5 étoiles, évidemment. Alors, ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde depuis 2002. Ça commence à faire beaucoup au Brésil, hein. On commence à se dire.
Oui, 20 ans.
Ils sont arrivés, poussés par leur nation, vers une sixième étoile. Et je me demande si, véritablement, au Brésil, on croit que ça serait possible pour le Brésil.
Mais je crois que oui. Hein. En tout cas, c'est la meilleure équipe, en fait, qui, depuis, je sais pas, 2002.
2006,
c'est vraiment...
peut-être.
2006, il y avait beaucoup de...
Spectaculaire, beaucoup d'attaquants.
Oui, voilà, spectaculaire. Hein. Ils avaient l'entraînement ouvert à tout le monde. C'était un peu, en fait, un peu les célébrités. Mais là, cette fois...
Il y avait tous les R, là.
Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos. Cette fois-là, il y a une confiance. Il y a beaucoup de prudence aussi. Mais c'est vrai que c'est une belle équipe. Donc, c'est une équipe qui a perdu seulement deux fois un match officiel, donc contre l'Argentine à la finale de la Coupe América. Donc, vraiment, c'est une bonne dynamique.
Elle a fait des éliminatoires impressionnantes.
Oui, tout à fait, oui. Mm-hmm. 17 matchs sans défaite, donc avec l'Argentine aussi. Hein. Donc, l'Argentine n'a pas perdu.
Afid, comment vous voyez-vous cette équipe du Brésil dans la compétition mondiale? On a l'impression toujours que c'est quelque chose de différent pour eux par rapport à... Alors, à la Copa América, évidemment, il l'a gagné assez régulièrement. Mais là, quand c'est Coupe du Monde, c'est autre chose.
Toujours favori, que ce soit pour les Brésiliens ou même pour nous, en général. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde, que ce soit en Europe ou bien en Amérique du Sud, en Afrique ou bien en Asie, qui ne pense pas que le Brésil est favori. bon, ils sont adorés, bien sûr, ils sont aimés par tout le monde. C'est parce que c'est le Brésil. Ils ont gagné 5 Coupes du Monde. C'est le moment de gagner la 6e, je ne sais pas. Mais ils ont toujours été à la hauteur, sauf en 2014. C'est bien ça, en 2014 et en 1930.
Oui, exactement. Quelle bonne mémoire.
Bah, donc, c'est un peu paradoxal parce qu'en 2014, ils vont au moins en demi-finale. Alors certes, ouais, il aurait mieux fallu peut-être oui, ne pas y aller. Oui. Mais après, sinon, depuis 2002, c'est rare finale, en fait, ouais, de les voir, ces quarts de finale, ouais, le plafond de verre. Pardon, je vous ai interrompu.
Mais reste favoris, les Brésiliens. Ils ont une bonne équipe, effectivement. Ils ont beaucoup de qualité. Et c'est une équipe aussi qui a un entraîneur qui a beaucoup de choix. Donc il y a de la qualité dans l'équipe.
Ouais. Il y a pas mal de choix.
Peut-être que ce qui change cette fois, en tout cas nous quand on regarde le Brésil, c'est Neymar qui attaque la compétition dans une grande forme, peut-être plus qu'en 2018. Alors en 2014 il était jeune et puis il avait été blessé assez vite, mais là on a l'impression d'avoir enfin le Neymar qu'on rêve tous de voir.
En fait, il ne s'est pas blessé déjà. Il a fait une très bonne préparation, en fait, même sur le plan personnel. Donc, il se prépare depuis très longtemps pour cette Coupe du Monde. Il a déjà laissé planer un peu les doutes s'il va faire la dernière Coupe du Monde ou pas. En tout cas, c'est la grande occasion, c'est l'opportunité pour lui de faire une très belle Coupe du Monde et peut-être gagner cette compétition qui lui manque dans son palmarès. Il y a aussi un enjeu pour lui parce qu'en fait, il y a début de Pelé, en fait. Donc, il y a encore cette motivation pour marquer, pour devenir le plus important buteur, le meilleur buteur de l'équipe du Brésil. Donc il y a beaucoup de motivation pour faire une belle coupe du monde. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il ne se met plus en évidence. On se souvient de 2018, on ne parlait que de Neymar, en fait. Ses coupes de cheveux changeaient tout le temps. Il était un peu...
Il faisait la une tout
le temps. Une sorte de Neymar dépendance. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, bien le contraire, en fait.
Faut-il trembler quand on va jouer face au Brésil comme la Serbie, Mathieu Grégoire?
À la Serbie, ou en tout cas ce Brésil-Serbie, ça peut être... je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas voir un 0-0 parce que c'est des attaques de feu. La Serbie, c'est une belle équipe. Vlahovic, Mitrovic devant. Donc déjà, ça va un peu tester la défense du Brésil, qui est peut-être un des petits points un peu en dessous. Et oui, je pense que la Serbie, ils vont aussi s'en prendre des buts. Ouais, c'est impressionnant. Moi, je les ai vus sur Brésil-Tunisie, là, au Parc des Princes, le 5-1. Et encore, ils ont arrêté de jouer à partir du moment où ils étaient à 11 contre 10 à la 40e. Il aurait pu avoir 8 ou 9-1 s'ils avaient poussé vraiment. Ils ont une force de frappe très, très importante. Un Neymar très concentré, une équipe assez dense sur toutes les lignes. Peut-être les latéraux, vous me direz si je ne dis pas de bêtises, qui sont un petit peu en dessous.
Alexandre, ouais.
Voilà, après, moi, il y a une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous ne les trouvez peut-être pas en excès de confiance parfois? En tout cas, je parle globalement, pas forcément Neymar, justement, mais globalement, on a l'impression qu'ils sont un petit peu... Vinicius disait qu'il y avait, je crois, déjà 10 célébrations de prêtres, c'est ça pour les buts, je crois que c'est lui qui disait ça.
C'est
Rafinha, pardon, voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit excès de confiance collectif, en tout cas, de leur groupe?
En fait, ça vient du Tite, en fait, cette confiance. Il a même affiché ça en conférence de presse aujourd'hui, qu'il se sent vraiment très en confiance par rapport à cette équipe. Je pense que c'est une confiance quand même un peu avec prudence. Ce n'est pas une confiance excessive, on n'a pas l'impression en tout cas. Mais ils jouent sur ces favoritismes parce qu'ils disent toujours qu'il y a toujours la pression sur le Brésil. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a cette confiance excessive, en fait. Bon, ils savent en tout cas que c'est toujours une équipe favorite. Mais je pense qu'ils sont très soudés en ce moment. C'est une équipe très, très équilibrée sur ces points de vue, en fait.
Hugo ?
Oui, vous parlez d'une équipe soudée. On a un peu parlé avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, du contexte politique, comment il influe sur une équipe. Est-ce que les divisions, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'une société très soudée en ce moment, la société brésilienne, vous me dites si je me trompe, est-ce que les tensions politiques ont été très fortes au départ de Bolsonaro et au retour de Lula au pouvoir? Est-ce que ce sont des choses qui, dans la société brésilienne, on mise aussi sur l'équipe nationale pour peut-être retrouver un peu une unité, un allant, et sortir un petit peu des divisions politiques qui, a priori, ont été assez, assez violentes. Ou alors, est-ce qu'on fait vraiment la part des choses?
Surtout que Neymar avait...
Voilà, parce qu'en plus, les footballeurs se sont un peu mouillés, entre guillemets, et divisés pour certains.
Oui, exactement.
Juninho, qui est plus footballeur, mais par exemple, a beaucoup critiqué le fait... Ou Rai, eux, ont pris position inverse.
Pendant les Ballons d'Or, justement, il a affiché son soutien pour le président Lula. Je pense qu'en ce moment, on fait un peu la part des choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour Bolsonaro, en fait, tous les maillots de l'équipe nationale, les supporters de Bolsonaro, ils ont pris, en fait, en quelque sorte, possession de ce symbole national, que c'est le maillot de l'équipe de Brésil.
Et lui, il le portait souvent.
Oui, tout à fait. Oui, il portait aussi les maillots de tous les clubs de foot. Donc, voilà. C'était un peu dommage. Voilà. Et après, Lula, qui a dit, mais écoutez, portez le maillot de la sélection après sa victoire, parce qu'en fait, c'est un maillot qui appartient à tout le monde. Bon, c'est vrai que c'est le contexte politique au Brésil. Ça continue encore très compliqué, mais au moins, pour l'instant, on fait la part des choses et ça n'a pas beaucoup d'incidence. On ne parle pas du tout de politique, justement, à l'intérieur de cette équipe. C'était voilà, Neymar qui a pris position, mais bon, une fois l'élection passée, on ne parle plus, au moins, dans les contextes de cette Coupe du Monde.
Cette sélection, elle est évidemment suivie par beaucoup de supporters. Ici, les Brésiliens se déplacent facilement. Mais alors, ce qu'on a découvert, n'est-ce pas, Elcio, lorsqu'on est allé l'autre soir à l'arrivée de la sélection du Brésil, eh bien, c'est que cette sélection est très populaire parmi les Indiens qui travaillent ici, qui sont de fervents supporters. Et on va entendre Marcos Reitberg, qui est brésilien, qui a travaillé longtemps ici et qui nous explique, selon lui, pourquoi les Indiens s'intéressent à l'équipe brésilienne.
Somos minoria aqui. Então, graças a esses aliados indianos, vamos ter uma bela torcida. Acredito.
On est en minorité ici. Alors, grâce à ces alliés indiens, nous aurons un bon groupe de supporters. Ils adorent le football, même si eux n'ont pas une grande équipe. Et c'est pour ça qu'ils ont adopté notre sélection. Mais ça vient loin, du temps de Garrincha, de Pelé. Et comme dans ce pays, il y a beaucoup d'Indiens, ils ont formé leur groupe de supporters pour nous soutenir. Ce sont des soutiens de poids, et heureusement qu'on les a. Sinon, de ce que je vois par ici, on serait dépassé par les Équatoriens, les Argentins et les Mexicains.
C'est une découverte, ces supporters. Ils nous disaient que c'était la région du Kerala qui était très liée au Brésil et à la sélection brésilienne depuis très longtemps.
En fait, en 2014, en fait, j'étais à Brasilia et j'ai vu un groupe d'Indiens qui étaient venus des Landes justement pour voir l'équipe du Brésil. Donc là, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une grosse communauté et des Indiens qui suivaient le foot, surtout le Brésil. Mais là, on voit, et on voit aussi dans les rues ici à Doha, qu'il y a beaucoup de supporters du Brésil et de l'Argentine.
Qui en fait, ensemble, hein, dans le même groupe d'amis.
Oui, exactement. Vous avez... c'est le seul endroit peut-être qu'on va voir tous les Brésiliens, les maillots du Brésil et de l'Argentine. En fait.
Ensemble.
Mais oui, mais en tout cas, c'est surprenant de voir la quantité en fait, des gens qui aiment bien d'ailleurs afficher en fait cette passion pour les foot sud-américains.
Mais je me demande si au-delà des cas, on va dire, de liens entre culturels qui peuvent expliquer ça, est-ce qu'on n'est pas aussi, on n'assiste pas à un phénomène qu'on retrouve depuis très longtemps pour les clubs, pour le supporterisme de clubs, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus forcément le club d'à côté, et Manchester United par exemple, être supporté par beaucoup de gens en Asie. Et est-ce que le phénomène ne se déporte pas aussi sur les sélections, avec forcément la sélection de Neymar, le Brésil, la sélection de Messi. Voilà, on a aussi un phénomène de mondialisation qui a aussi abouti, mais bon, ce sera un trop vaste débat à la Coupe du Monde de Qatar et qu'on observe ici.
Suivent, par exemple, dans le cas du Brésil, depuis très très longtemps, en fait, hein, parce que
je dis pas qu'ils sont pas fervents,
des Garrincha, des Pelé, ils sont là.
Juste, je voulais compléter, oui, on a tendance à se moquer un petit peu d'eux, parce que voilà, c'est pas, évidemment, ils viennent pas de Botafogo, non, mais dans la presse, même des fois, en général, même sur les réseaux, on a toujours à dire, ils sont des footix et tout, ils s'y connaissent vraiment, ils savent toutes les stats de Messi, de Neymar, ils connaissent par cœur la sélection argentine, la sélection brésilienne, ils regardent tous les matchs.
Et en club, c'est la même chose.
Eh bien, on continuera à regarder tous les matchs, mais c'est déjà la fin de Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé ce soir. Merci beaucoup, Afid.
Merci à vous.
Écoutez-nous et puis revenez dans Radio Foot International. Alors, on ne pourra pas parler en arabe, mais on se fera un plaisir de vous recevoir de nouveau.
On peut dire,